improbable de Montréal revient pour une 12e édition entre sieste musicale, théâtre, danse, poésie, installation et art visuel. Noise India, un fascinant road movie multimédia dans les ports d'Inde. Entre documentaire et fiction, découvrez les Shipbreakers. Avec les fantaisies des escales brouillon numéro 2, débranchez-vous de la routine. Une grande soirée où se rencontrent musique, cirque, art visuel en direct et projection. Vous voulez participer à une expérience théâtrale collective avec les deux artistes portugais Ana Borralho et Juanjo Galente? Atlas Montréal, c'est une véritable agora qui réunit 100 citoyens de toutes professions, générations et origines. Venez voir une expérience humaine unique. Achetez vos billets et découvrez toute la programmation sur escaleimprobable.com.
HEC Montréal, ces lettres vous mèneront loin. À HEC Montréal, la MSC Maîtrise S Sciences en Gestion vous propose 19 spécialisations dans tous les domaines de la gestion. Management, économie, affaires internationales, finance, logistique, marketing, technologie de l'information. Venez en grand nombre rencontrer les professeurs à la séance d'information MSC le mercredi 26 août à 18h30. RSVP sur hec.ca.
Et vous, jusqu'où irez-vous?
Du 10 au 12 septembre, rue Saint-Denis, dans le quartier des spectacles, Desjardins 360D présente Oomph, le festival de la rentrée, en collaboration avec la microbrasserie Trois Brassards. Voyez gratuitement Grandmaster Flash, Dead O'Beat, Baba Not Good, Canaille, Soulcard et une tonne d'autres artistes d'art urbain et d'activités extérieures. Vivez l'expérience d'un festival maximal avec le bracelet exclusif Oomph en 360. Détails et horaires sur oomph.ca.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.
Bonjour à tous et bienvenue à cette 65e édition de Pop en Stock. Comme vous le savez bien, Pop en Stock est l'extension de la revue numérique portant sur la culture pop dans toutes ses dimensions. Ça me fait absolument plaisir de vous accueillir pour une autre émission aujourd'hui. Mon nom est Jean-Michel Berthiaume et aujourd'hui en studio, j'ai un pote, un grand homme de la culture et aussi la personne qui est toute... toute ta cabine qui est ici pour nous parler de notre sujet. Non, il y a comme, à un certain point, trop d'adjectifs pour décrire David Fortin que les mots me perdent, David.
Bonjour, Jean-Michel.
David, c'est drôle, ça nous donne, il y a comme un sentiment de familiarité.
C'est vrai, j'ai l'impression d'être au septième en tout cas.
C'est un peu ça.
Je suis presque jamais ici.
Oui, mais aujourd'hui, tu l'es.
Aujourd'hui, je le suis.
Et c'est pas pour des petites raisons, en fait, c'est pour des grandes raisons importantes. C'est que, David, t'as été la personne... qui m'a présenté le sujet.
Oui, ça fait peut-être pas loin d'un an où je l'avais proposé pour le 7e antiquaire à l'époque. Pour X raisons, j'avais l'impression que ça fitait là. Mais maintenant que je suis ici, je me rends compte que le sujet fonctionne beaucoup mieux à Pop en Stock, finalement.
Ben, c'est ça qui est particulier, c'est que dans la préparation de l'émission, c'est comme ça qu'on l'abordait. Tu me disais, waouh, c'est fascinant de pouvoir avoir une émission sur un phénomène pop que, de ton côté, tu connais depuis si longtemps et que moi, je découvre comme un nouveau-né et qui se développe en mon giron à ce moment. Et ce phénomène-là, d'abord et avant tout, gravite autour de 8 astres très importants, 8 et 9, dont un qui est ici en studio, très important, en fait, un des grands fleurons de la couronne que l'on nomme Philactère Cola. Carniard, bonjour.
Bonjour.
C'est un honneur exceptionnel de t'avoir ici en studio. Comme je disais et comme je vais le répéter plusieurs fois à l'émission, je suis surpris, étonné et à court de mots quand vient le temps de décrire l'influence que Philactère Cola représente pour moi et aussi en quel point est-ce que vous étiez prescient, instinctif, intelligent. L'énergie aussi, il faut quand même mentionner l'énergie que vous avez donnée à ce projet-là. C'est pas mal exceptionnel, c'est pas mal unique et Pop en Stock se donne comme mission d'être un portail de découverte, d'exploration, de décortication aussi des phénomènes pop. Il n'y a rien de mieux que Philactère Cola pour parler de ça parce que vous avez fait ça, quoi, maintenant presque 20 ans, pendant presque 20 ans.
Oui.
Moi, ça me sidère totalement. Mais rapidement, pour les gens qui ne seraient pas du tout familiers avec Phylactère, comme moi je l'étais il y a maintenant un mois, il y a un bref extrait sur l'entrée de Wikipédia qui a été écrit par l'un des vôtres,
oui.
Que je trouve qui brille particulièrement en description de votre projet. En quoi est-ce que Phylactère Collant pose un regard critique et politisé sur la culture populaire et la société en général, tournant en dérision les riches et les pauvres, les beaux et les laids, les vieux et les jeunes, les chats et les chiens, et surtout les concepteurs eux-mêmes. Phylactère Collant insulte délibérément l'intelligence aussi bien que la stupidité. Cette description-là, pour moi, elle est totale. C'est exactement ce que je voulais savoir, et c'est aussi une confirmation que qu'est-ce que j'étais en train d'écouter, ça avait été reconnu pour l'intelligence que ça l'a. Vous êtes des pionniers du do-it-yourself. Vous avez une intelligence émotive et politique et humoristique et sensible qui est inégalée pour moi. Puis je suis super, super, super content que tu sois là. Je suis super content d'en parler, puis je suis super content que David existe. Puis c'est juste le fun d'être à choc.
Oui, ben je suis content que ça t'ait plu à ce point-là, Jean-Michel, parce que je me doutais que ça fonctionnerait à Pop en Stock et que t'aimerais ça. Toi qui connaissais pas ça du tout il y a un mois, et moi qui ai suivi quand même Phylactère Collant depuis l'époque à Télécom 9, en suivant avec les VHS et tout. Donc c'est le fun de pouvoir t'avoir, Carnia, avec nous pour justement parcourir un peu historiquement toute l'évolution qu'a été ce projet collectif-là, Phylactère Collant. Mais par un excellent hasard, juste avant de se lancer un peu peut-être dans Phylactère Collant, il y a aussi un nouveau projet sur lequel tu es en train de travailler présentement qui s'appelle Feuille morte. Et oui. C'est un projet de long métrage, donc ton premier long métrage qui va être co-réalisé avec d'autres personnes. Ça serait peut-être justement une bonne occasion peut-être de nous présenter un peu ce projet-là. C'est quoi exactement? Absolument. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un lien avec Phylactère Collant d'une certaine manière à faire, dans le sens où on est encore dans un certain genre, si on veut, ou...
Ben, c'est sûr que peu importe, mettons, après Phylactère Collant, tous les autres projets sur lesquels j'ai travaillé ou mes propres courts-métrages, il y a toujours une saveur qui revient, tu sais.
Vous avez votre signature.
Il me manque des bottes dans la tête, j'ai une certaine folie, fait que ça va toujours rester. Fait qu'évidemment, ça reste dans le long-métrage. Ce premier long-métrage-là, je le co-réalise avec mon ami de Phylactère Collant, Eddie 69.
Oui.
On était 8 membres, il y avait Eddie 69, un bon copain. Fait qu'on co-réalise le film ensemble et avec un autre de mes amis, Thierry Bouffard, qui était un satellite de Phylactère Collant, fait qu'il n'était pas dans le groupe, mais il était souvent avec nous, puis il nous donnait toujours un petit coup de main. Fait qu'on fait ce film-là ensemble, les trois. C'est beaucoup moins humoristique que Phylactère Collant. Fait que notre premier long-métrage, on voulait vraiment, par défi personnel, faire quelque chose de plus sérieux, de plus réaliste, surtout réaliste. Fait que c'est un film qu'on pourrait dire post-apocalyptique, fait qu'un film d'anticipation qui se passe environ dans peut-être une dizaine d'années. Il y a eu une grosse crise économique, mondiale, informatique. En tout cas, il n'y a vraiment plus rien qui fonctionne. Il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de police, il n'y a plus rien. Fait qu'on sent qu'il y a un bon chaos social. Fait que les gens se dirigent beaucoup vers la campagne. Fait qu'on a vécu ça, en fait, au Québec puis en Amérique, là, quand il y a eu la crise de 1929,
oui.
La première grosse crise économique. Les gens allaient vers la campagne, puis ça faisait beaucoup de monde en campagne, puis ça créait des conflits. Il y avait des villages qui se barricadaient. Fait que nous, on s'est un peu inspiré de ça pour le remettre au goût du jour.
Comment ça pourrait arriver de nouveau?
Exactement. Il y a quand même des petits moments cocasses dans le film et tout. Tu sais, je veux dire, c'est nous-mêmes. Tu sais, on a fait ce projet-là, puis on se fait plaisir à nous-mêmes, mais c'est beaucoup plus sérieux. Mais je pense que les gens qui ont apprécié Phylactère Collant vont venir voir le film, puis ils vont triper aussi. C'est, mettons, je pourrais comparer ça à, mettons, pour les gens qui connaissent Monty Python, qui ont vu les films de Terry Gilliam, Munchausen ou Brazil, tout ça, ben c'est un peu un genre de différence comme ça. Fait qu'on reconnaît une saveur, mais c'est pas la même chose.
Ça reste assez noir, un peu comme Brazil pouvait l'être comparativement.
Oui, exact.
Mais, le côté très imaginatif va être assurément là aussi.
Ah, c'est sûr, ça. C'est sûr. C'était vraiment un beau... En tout cas, c'était un beau délire. Là. Je suis bien content du scénario à date. Là.
Puis pour les... Présentement, je pense que vous êtes encore en campagne de financement.
On est en campagne de socio-financement avec La Ruche, en fait, parce que Flacteur Collet est originaire de la ville de Québec.
Oui.
Le long-métrage va être tourné dans la ville de Québec.
Oui.
Fait que dans le fond, on fait affaire avec La Ruche pour aller chercher des sous. Fait que vous pouvez aller faire un tour. Évidemment, si vous voulez nous encourager, ça va de 5 à 1000 $ Pour 5 $ c'est comme genre, merci les gars, ben bravo les gars pour faire un film. C'est cool. Puis à 1000 $ tu peux donner ton nom à un personnage. Fait que,
Ça vaut la peine d'y aller. On vous encourage fortement, les auditeurs, parce que c'est, juste pour au moins, il y a une vidéo qui est, où vous expliquez quand même très bien le projet.
Ouais.
Et ensuite, c'est ça, toutes les contributions possibles que vous ayez presque rien sur vous financièrement ou beaucoup d'argent, ça vaut la peine d'encourager ce genre de projet-là.
Mm-hmm. Ben c'est un film à micro-budget. Fait que c'est un film qu'on fait quand même avec des cacahuètes. Même si on a eu un peu de sous de Téléfilm Canada et qu'on l'apprécie énormément, ça reste quand même des petits montants. Fait que chaque dollar compte. Fait, fait que le socio-financement, c'est important pour nous. C'est pas juste un petit truc de même à côté. Là. C'est important.
Et aussi, le grand avantage d'être dans une radio web comme Choc.ca, c'est qu'on n'est pas limité à la diffusion montréalaise. Pour les gens de Québec, il va y avoir une soirée, si je me rappelle bien, le 26 septembre.
Exactement, on fait une soirée de financement en plus, fait que c'est concordé avec notre sous-financement sur La Ruche. On fait une soirée à Québec où on va présenter nos courts-métrages et tout ça pour montrer un peu tout le travail des trois réalisateurs, le ton aussi qu'on peut avoir. Puis en même temps, on veut aussi dire parler un peu vraiment du projet qu'on veut faire, peut-être montrer des photos sur l'écran, tout ça. Mm-hmm. Fait qu'on veut vraiment aller un peu plus loin que juste présenter des courts-métrages. Oui. On veut aller un peu plus loin que ça.
Puis déjà, j'ai l'impression que vous avez réussi à avoir des acteurs quand même de renommée dans le projet.
Oui, bien évidemment, on l'a su la semaine dernière, on a eu les confirmations, on a réussi à avoir Roy Dupuy avec nous.
Oui.
Fait qu'on est vraiment content.
Très, très. Ah,
surtout pour ce type de film-là.
Oui. Ouais, ça va être... Et puis il y a vraiment beaucoup, en fait, j'ai passé un après-midi avec lui, justement, après qu'il ait lu le scénario, il était intrigué, j'ai passé un après-midi avec lui pour en parler, puis essayer de le convaincre, mais il était vraiment enthousiasmé. Je pense que, moi, quand j'écrivais, je me disais, mon Dieu, mais son rôle, c'est vraiment... Je savais pas encore au début nécessairement que ça allait être Roy Dupuy. J'essayais d'écrire sans penser à personne, mais je me disais, ça, c'est vraiment du bonbon d'acteur, ce personnage-là.
Ouais.
Puis il a vraiment embarqué. Il était prêt à... Il savait qu'on n'avait pas un gros budget, mais il est prêt à embarquer avec nous, puis aller jusqu'au bout. Fait que c'est vraiment, vraiment appréciable.
Très, très bonne nouvelle. Ben, on va vous souhaiter... Oui, pardon.
Tellement hâte de voir ça.
Le tournage va se faire cet automne?
On tourne dans un mois.
Dans un mois?
Ça commence je suis très mal au ventre un peu. Là.
Ouais. Bon, mais on a très, très hâte de voir ça. On va vous souhaiter toute le meilleur pour tout le tournage et toute la sortie du film. On va attendre ça avec impatience. Et,
et pour les gens qui veulent nommer un personnage...
Si vous voulez nommer un personnage, un personnage où vous avez 1000 $ n'hésitez pas à aller sur La Ruche. Sinon, pour tous les autres, que vous ayez 5 $ en poche ou peu importe, ça vaut quand même la peine d'aller voir et donner un coup de main à ce projet-là.
Ça ne pourra pas, par contre, être le personnage de Roy Dupuy.
Oh.
Non, non, c'est correct.
Je vais vous dire pourquoi, en fait. C'était vraiment un petit délire scénaristique. Là. C'est que j'ai réussi en scénario au début, le personnage, j'ai réussi à... Dans le scénario, il s'appelle Bob.
Oui.
B-O-B. Parce que ça s'écrit vraiment vite quand tu écris le scénario, cool. Mais en réalité, je me suis arrangé pour que tout le long du scénario, son nom n'est jamais dit.
Ah.
Fait que c'est The Man With No Name. Dans les films de Léoné. Parce qu'il y a un petit côté western quand même à ce long-métrage-là, vu que c'est en région, c'est post-apocalyptique, c'est le retour de la loi du plus fort, dans le fond. Le retour un peu... de la survie. Fait que oui, on a fait un petit côté western subtil quand même. Mm-hmm. On voulait pas aller trop dans
mais...
le western spaghetti, mais oui.
Roy Dupuy dans un western post-apocalyptique. Moi, je suis...
On est vendu.
Hein,
ouais.
C'est intéressant.
C'est ça.
En tout cas, ça casse la routine en tabarouette.
C'est ce genre de projet-là justement qui fait du bien de voir apparaître justement de plus en plus tranquillement. On en voit apparaître, disons, dans le paysage... du cinéma québécois, et ça semble quand même encore assez dur à faire. Donc,
il faut encourager. On vous encourage. Ça se fait, tous, là.
Même nos auditeurs de France, là, vous voulez voir un film québécois différent, allez-y.
Ouais, je ferai un petit lien très, très rapide là, avec les amis de Roadkill Superstar qui ont fait Turbo Kid. C'est magnifique. Là. Vraiment un bon film qui ont vraiment fait avec des cacahuètes aussi. Hein, ils ont travaillé fort. Puis le résultat, tabarouette.
Mais c'est de ça que je parlais, là, cette espèce de soupe do-it-yourself. Comment, tu sais, vous êtes issus de la même philosophie.
Mais c'est pas apparu du jour au lendemain. Eux, ils ont travaillé fort. Hein. Ça fait 10 ans là, qu'ils font des courts-métrages puis qu'ils travaillent très, très fort pour zéro. Donc soudainement, ils ont un peu de sous pour faire un film. Puis Fait que quand tu as toujours fait quelque chose qui look comme 20 000 $ avec zéro,
ouais.
ben quand tu as 20 000 $, ça look 1 000 000.
Ouais, c'est vrai.
Exactement. C'est ça. C'est une grande caractéristique de votre travail commun, là, tout le monde. On inclut aussi toutes les gens, j'imagine, qui participent à Vitesse Lumière, ont ce feeling-là derrière eux.
C'était ça un peu, parce que je sais qu'aujourd'hui, on va parler beaucoup de Phylactère Cola, mais c'était beaucoup ça aussi, la force de Phylactère Cola. C'était
de faire peu avec très peu.
C'est ça.
Parce qu'on va commencer à parler Phylactère Cola.
Oui.
Il y a un truc que David m'a appris, puis on retourne vraiment aux origines, puis c'est là où il m'a piqué du plus sévèrement dans ma curiosité. Vous étiez des chroniques de bande dessinée initialement.
Oui. Parce que,
est-ce que c'était ça?
Moi je me trompe peut-être, Carnière, mais je me rappelle dans le temps de Télécom 9 que je les enregistrais. Il y avait des petits sketchs et tout, mais c'est que de temps en temps, je me rappelle en fait d'un moment où c'était toi, si je me trompe pas, qui faisait un peu comme qui parlait d'une BD en particulier qui avait été lue. Puis pendant ce temps-là, tu te promenais dans la rue, puis c'était en narration, t'expliquais la BD, c'était quoi? C'était comme une façon de faire, disons, une certaine promo critique de la BD.
Mais c'est fou, ça.
Ben, en fait, c'est que pour, mettons, faire vraiment l'origine de Phylactère Cola, à l'origine, c'est des amis. On est tous des amis encore aujourd'hui, même si la série n'existe plus. Je veux dire, on se voit régulièrement. Puis, en fait, c'est qu'à l'origine, on était tous des BDistes qui dessinaient chacun leur côté, chacun dans leur appartement, puis on s'emmerdait. Fait qu'on s'est regroupés, puis on a commencé à dessiner ensemble, à faire des dimanches à la Forme Atomique, un bar de Québec, punk alternatif. Fait qu'on se réunissait là, parce que moi, je travaillais là, puis je me disais, le dimanche après-midi, c'est mort. Fait que j'invitais tous les gens qui font de la BD à venir. Puis là, on parlait de nos BD, on montrait nos dessins, on se faisait des critiques entre nous. Puis, fait que ça a commencé à mijoter comme ça. On a commencé à faire des soirées de bande dessinée en direct. Fait qu'on faisait les mardis soirs à la Forme Atomique. On avait des grands cartons, on faisait de la bande dessinée en direct. Les gens votaient des thèmes et tout ça, puis on dessinait en direct. C'était bien buzzant.
Mais c'est fou.
On a commencé à faire des petits sketchs à travers ça en vidéo pour que ça fitte avec nos trucs, avec les BD en direct. Et là, tranquillement, c'est devenu un projet qu'on a commencé à monter pour la télévision communautaire de Québec, qui s'appelle Télécom 9, qui n'existe plus, mais à l'époque, c'était Télécom 9, télévision communautaire. On a monté un projet informatif sur la bande dessinée. Et fait que dans l'émission, évidemment, il y avait des sketchs, il y avait des chroniqueurs, il y avait des gens qui venaient, des BDistes justement du Québec qui venaient, ils parlaient de leur travail, on les filmait. À travers ça, il y avait des sketchs, mais les sketchs étaient tellement populaires que finalement, ils ont pris le dessus, puis même vraiment beaucoup. Fait qu'à la fin d'une saison, il n'y avait que des sketchs dans un épisode, il n'y avait plus beaucoup d'informations.
Mais ça, tu vois, c'est drôle parce que quand on me le mentionnait à mon époque naïve, là, quand je connaissais absolument rien de ce que vous faisiez, puis qu'on me disait Phylactère Cola, puis qu'on me répétait le titre, pour moi, ça évoquait un espèce de truc de surréalisme, tu sais, prendre deux mots ensemble, juste dire.
Ouais.
Mais maintenant que David et que tu confirmes cette idée-là, Phylactère Cola, pour moi, c'est la chose la plus. C'est la description la plus parfaite de votre projet parce que c'est vraiment d'écraser la substance unique de la bande dessinée jusqu'à en soutirer un jus énergétique, sucré et caféiné.
C'est bien dit.
Mais c'est ça, tu sais, c'est que le phylactère est la caractéristique principale, la caractéristique unique de la bande dessinée. Elle existe seulement en BD. Elle a été récupérée, mais c'est un des gros signes de la BD.
Ouais.
Mais si tu prends ça, puis tu fais, je vais aller chercher l'essence de cette affaire-là, et je vais te sauver des nuits sans sommeil avec le jus du phylactère, ben, le phylactère cola, c'est le carburant, votre imaginaire. Puis là, j'ai comme, en les écoutant, catché que c'est exactement ça. Tu te fais carrocher ou tu te fais comme injecter un concentré totalement débile de l'imaginaire de la bande dessinée. Puis ça,
oui, parce que
c'est concluant.
C'est ça, cette influence-là où que vous avez de la BD, que vous venez de la BD, ça se sent dans les sketchs. Et c'est quelque chose que moi, en fait, je pense que ça a été beaucoup de toutes les fans qu'il y avait de Phylactère Cola à cette époque-là, que ce soit de Télécom 9 au VHS et tout. C'était vraiment quelque chose qu'on voyait vraiment pas du tout, ou enfin pas beaucoup à la télé. Un peu comme tu l'as dit, vous êtes un peu des enfants aussi de Rocket Belles Oreilles, de Monty Python. Donc, l'idée des sketchs humoristiques avec, bon, ce côté-là un peu... un peu subversif. C'était là, oui, mais il y avait tellement quelque chose moi, je trouvais de très ancré dans la BD, souvent autant dans le visuel que dans le ton, que c'est quelque chose de nouveau, puis qui est encore aujourd'hui pas tellement vu.
Non.
Pas au Québec, en fait.
Ben, tu sais, la bande dessinée, c'est une autre façon de raconter une histoire. Hein?
Ouais.
Moi, j'ai commencé en faisant de la bande dessinée parce que ça demandait seulement une feuille puis un crayon.
Ouais.
Fait que t'as pas besoin d'une caméra, t'as pas besoin de...
C'est
vraiment low budget, là, comme... comme façon de raconter une histoire. Fait que je trouvais ça très pratique. C'était probablement ça mes autres chums aussi autour de moi. Fait que c'est bien pratique, mais il y a une façon de raconter une histoire en bande dessinée qu'on a ramené, nous, à l'écran. Tu sais, certains gros plans, certaines... de mettre beaucoup de choses dans un seul cadre, en fait. Parce que ça, c'est très important dans une bande dessinée. Il ne faut pas trop découper une scène. Hein. Il faut que dans un plan... dans une case, en fait, il y a beaucoup d'informations. Il faut que dans ton phylactère, fait que c'est la bulle où il y a les textes, on ne dise pas des choses qu'on voit déjà dans la case.
Ouais,
si tu vois ton personnage qui marche, il ne faut pas qu'il dise dans la case « Je suis en train de marcher, Chris, on le voit, là, qu'il marche. » Tu sais, il faut aller plus loin que ça. Il faut qu'il dise un autre truc qui n'est pas dans la case qu'on ne peut pas savoir.
Mm. Puis ça doit, ou du moins, là, je dis « ça doit », mais je suis pas mal convaincu, ça participe au kinétisme, ça participe aussi au fait que, clairement, vous avez parlé à une génération. La génération de David, la génération de Marie-Ève qui écoute, vous avez, vous êtes connectés à cette façon-là de voir le monde.
Ben, je pense que ça montrait aussi cette idée-là qu'on pouvait... bon, il y a eu par après de Télécom 9, il y avait les VHS aussi qui apparaissaient, vous faisiez des projections dans les bars et tout ça. Puis, moi, je me rappelle que j'étais un abonné au Club Vidéo Quartier à Québec. Puis, c'était une des rares places où on pouvait voir les VHS de Phylactère Cola. C'était toujours location gratuite. Puis, c'était très intriguant. Puis, on pouvait passer à travers tous les sketchs comme ça. Puis, ça montrait un peu comme un exemple de personnes à Québec, tu sais, qui existent pas loin de nous, qui sont capables de faire des petits films, en fait, avec presque rien. Puis, avec genre passion et volonté extrême de faire un film. Puis je pense que ça communique aux gens qui ont cette espèce de besoin de création-là. Puis éventuellement, est apparu par après de quand même de Phylactère Cola les mouvements Kino qui avaient un peu cet esprit-là aussi. Donc c'est quand même, vous étiez un peu avant-gardiste, je trouve, dans ce qui allait, toujours un petit peu à l'avance de ce qui allait devenir un peu plus, disons, la norme dans le paysage audiovisuel au Québec, malgré que oui, il y a eu les Rockabilly Oreilles et tout avant, il y avait quelque chose dans... Vous étiez de votre temps, en fait, par rapport à ça. Oui. C'est surtout avec l'époque, il y avait, bon, les caméras numériques, comme tu nous l'expliquais.
On était en fait de révolution numérique à ce moment-là. Là,
Final Cut Pro et tout. Donc, il y avait cette possibilité-là, vous avez sauté dessus.
Oui, on l'a vraiment utilisé. Bon, on voulait tellement raconter nos histoires que dès que la technologie était disponible, parce que je me souviens, dans les premiers sketchs qu'on faisait pour la télévision communautaire, justement, on avait deux lecteurs VHS, un à côté de l'autre, puis il fallait calculer 3 secondes dans notre tête pour faire les cuts. C'était complètement débile mental, tu sais, puis c'était laid. C'était pas beau. Ah non, ben bon.
Oui, mais...
mais c'est ça, évidemment, quand les caméras mini-DV sont apparues, i8 mini-DV, qu'on pouvait faire du montage sur Final Cut Pro, évidemment, nous, on a sauté tête première là-dedans, là. On n'a même pas hésité, c'était du bonbon, là, c'est sûr. Moi, c'est sûr que je reste aussi peut-être un plus ou moins bon juge de tout ça, parce que est-ce que ça a influencé beaucoup de monde? Je le souhaite, évidemment, je le souhaite bien, mais je ne sais pas à quel point.
Peut-être.
C'est dur à savoir aussi. Moi, c'est sûr, quand je regarde tout ce qu'on a fait, je trouve ça drôle, mais c'est pas aussi trippant pour moi de le regarder que pour toi, exemple, parce que moi, je connais trop les facettes. C'est comme me regarder moi dans le miroir.
Ouais.
Je me trouve pas si beau que ça. Fait que quand quelqu'un me dit que je suis beau, je suis content.
Ah, mais, tu rayonnes. Mais... Oh non, vraiment. mais c'est ça qui est d'exceptionnel. Puis c'est totalement normal que de l'intérieur, tu sois pas capable de regarder, de pas te regarder, mais de voir ça.
Moi, on l'a fait juste parce qu'on avait du fun. Mm-hmm. On s'est fait plaisir. On avait envie de faire un truc de science-fiction. On avait envie de faire un sketch avec justement de l'action, avec des ninjas. On se faisait plaisir. On pensait pas, est-ce que ça va coûter ci ou ça? Est-ce que ça va influencer une génération?
Non.
On était notre premier public.
Ben, c'est ça.
Ça, là-dessus, c'est clair.
C'est ça, parce que vous faisiez tout vous-même. C'est peut-être ça aussi qui est, je trouve, avec le recul, puis tu l'as remarqué, Jean-Michel, pour l'avoir écouté récemment avec le bagage télévisuel que tu avais déjà de la télé québécoise. Tu l'as remarqué autant que moi, je le remarque d'une autre manière, mais c'est dur de voir quelque chose d'équivalent au niveau de l'énergie qui est mise sur une série télé. Tu sais, y a toutes sortes de séries, que ce soit à sketch ou autre, qui existent, qui peuvent être intéressantes ou non, mais cette énergie-là que vous avez mis à faire tout vous-même, parce que c'était pas fait en studio, c'était fait dans un garage, quoi, qui appartenait, que vous louiez ou autre, mais c'était vraiment autant les décors, la construction de tous les décors, de peinturer, de faire tout de A à Z à chaque jour, autant de défaire le tout le soir. C'était, ça, c'est c'est quand même incroyable. Quand on regarde le résultat, à quel point il y a une qualité esthétique visuelle, c'est surprenant.
C'était beaucoup de travail. Hein? On a tous perdu nos blondes pendant cette période-là. C'est pas une blague, là.
Ouais.
Mais non, c'est oui, mais ouais. En même temps, on était les deux pieds dedans, puis il fallait le faire. C'était la chance de notre vie.
Le rush à donner. Ouais,
oui. Mais c'était des heures de travail de dingue. Là, puis c'est pour ça qu'on n'a pas continué. C'était pas une chicane entre les membres du groupe et des égos démesurés de Guitar Hero. Là. C'était seulement juste que on était épuisés, puis ça n'a pas été renouvelé. Puis en même temps, ça ne nous faisait pas vraiment de peine dans un sens, parce que on était vraiment fatigués. C'était beaucoup de travail tout faire. Là.
Oui. Oui, parce que c'est ça, le parcours, en fait, du projet à partir Télécom 9 s'est transformé aussi avec les copies VHS qui apparaissaient dans les clubs vidéo. Et bon, en parallèle à ça, vous aviez aussi d'autres projets, des courts-métrages et tout. Et éventuellement, vous êtes ramassé à pouvoir faire deux saisons à Télé-Québec. Et entre-temps, il y a eu un essai avec Télévision 4 saisons.
Oui.
Donc, qui n'avait pas marché autant que vous vouliez.
Non, on s'est rendu compte que le fameux mouton noir, il était blanc teindu, hein, parce qu'il n'était pas noir pantoute.
Non, ouais.
Non.
C'est ça.
C'est vraiment, là... En fait, c'est ça. Ils ont été les premiers à nous approcher après la télévision communautaire.
Ouais.
Parce qu'on avait un certain succès, là, puis ils ont été les premiers à nous approcher. Puis on a fait quand même trois épisodes pour eux. On avait commencé à travailler. On avait loué un studio. C'était pas tout à fait les mêmes, là, le même qu'à quand on était à Télé-Québec, mais... Puis finalement, après trois épisodes, je pense qu'ils ont eu vraiment peur. Là, et ils ont fait dans leur froc, comme on pourrait dire dans un bon français. Puis c'est ça, ils ont eu peur parce qu'ils trouvaient ça trop weird, trop bizarre. Il n'y avait pas de vedette. Surtout, c'est la grosse affaire qui les dérangeait beaucoup.
Ils ont besoin
beaucoup
de vedette. Ouais.
Il n'y avait pas de vedette. Fait que finalement, ils ont déplugué. Puis,
t'as-tu l'instinct d'un sketch qui les aurait dérangés en particulier?
Non, tu sais, je pourrais pas dire, par exemple. Je pense que c'était pas mal l'ensemble.
Ouais, ben c'est ça. Je pense que si on pense à n'importe quel sketch de Philacteur Cola, ça va clasher avec une télé quand même un peu mainstream.
Pour les gens qui le savent pas, il n'y a pas grand-chose qu'on n'a pas fait. Là. On a fait exploser des personnes âgées. On est allé sur Mars. Là. On allait pas mal dans une sorte de direction.
Là. Oui, ça pouvait être même gore par moment.
Ah, ben, absolument.
Mais tout le temps avec une intelligence, il faut souligner.
Oui, c'était.
Je pense que c'est pour ça que le premier 20 minutes, on n'a pas vraiment posé de questions. On est juste en train de te bombarder d'appréciation. C'est que, de mon observation, c'est ça, comme je disais, vous êtes vraiment un monument qui a peut-être pas un aura de mystère, mais encore une espèce de comme petite distance que, éventuellement, bon, il y a des institutions comme Space et Fantasia qui vous ont vraiment, qui ont décidé de mettre le spotlight sur vous autres pour certaines soirées et tout. Mais pour n'importe qui n'ont pas découvert Philacteur Cola encore, vous avez de quoi vous mettre sous la dent. Ouais. C'est ça, tu sais, on le mentionne qu'il y a du gore, mais pour moi, toute forme de gore vient avec soit une blague politique extrêmement acerbe, soit un truc slapstick, vaudeville, totalement dingue aussi. Ouais.
C'est... Mais tout ça vient, je pense, de notre dynamique de groupe, parce qu'on était à l'origine des amis qui prenaient une bière ensemble, qui écoutaient des films de série B, justement, qu'on louait au club vidéo, qu'on faisait de la bande dessinée ensemble. Ça a commencé comme ça. Et quand on a commencé à faire Flatter Cola, on a gardé un peu cette dynamique-là. Fait que on se réunissait, on faisait des brainstorms pour les sketchs, fait qu'on travaillait ensemble. Fait que t'as 8 personnes autour d'une table qui brainstorment pour des sketchs. Il y en a qui sont plus politisés dans le groupe.
Oui.
Il y en a qui sont plus amateurs de comiques. Il y en a qui sont plus amateurs de films de science-fiction. Fait que c'est tout ça mêlé ensemble que tu te retrouves avec toutes sortes de références, toutes sortes de trucs. Puis moi, j'aimais bien tous ces mélanges-là en même temps. Justement, il y a un côté politique. Il y a un côté niaiseux, cave, crotte de nez des fois. Là, c'est tout ça qui est mêlé. Ouais. Mais tout ça ensemble, ça te fait wow!
Ça fait une
soupe avec de la saveur en tabac.
Oui, c'est ça. Mais à goût de bonne.
Vas-y.
En fait, c'est que j'ai remarqué, tu disais, il y en a qui sont plus politisés et tout. C'est vrai, politisés et tout. Et c'est vrai que je réécoutais des sketchs justement pour me préparer à l'émission. Puis je me rendais compte qu'il y avait quand même des choses qui revenaient souvent, comme bon, la minute du patrimoine qui est repris, les soldats, là, la tranchée en folie, où je suis plus sûr exactement le titre.
La tranchée s'amuse.
Ou même des courts-métrages que tu avais fait sur les premiers Canadiens français à aller sur la Lune ou sur dans l'espace. Il y a toujours ça, puis même Feuille morte, à la limite, avec cette idée de la feuille d'érable, avec du sang et tout. Donc, il y a toujours un aspect un peu... histoire du Canada ou qui est pas loin ou qui traverse un peu ça. C'est souvent ancré, en fait, là, j'ai l'impression, ouais. À ce niveau-là.
Ben, c'est sûr que chacun a des raisons différentes de faire des films. Chaque auteur ou chaque réalisateur a des raisons différentes. Il y en a que c'est pour faire de l'argent, il y en a que c'est pour se faire connaître, il y en a que c'est pour se poigner des filles. Il y en a que... ben oui. Il y en a que c'est pour gagner leur vie, puis... Mais moi, c'est sûr que c'est un petit mélange de tout ça, là, mais tu sais, mais en réalité, moi, ce que je trouve important le plus, c'est que c'est peut-être mon adolescence punk, là, où, tu sais, j'ai besoin de sentir que je change le monde. Mais en même temps, j'ai pas envie de le faire à coup de batte de baseball en face. Pense comme ça, pense comme ça. Non, tu sais, quand tu arrives trop brusquement devant les gens, « Hey, mange bio, arrête de manger de la viande », ça leur fait peur, tu sais. Ils n'ont pas envie que leur...
C'est confrontatif.
Mais c'est raide, un peu trop raide. C'est comme un débarquement viking. Là, tu fais peur au monde. Fait que quand tu arrives avec un message, mais qui coulait à travers une histoire vraiment qui est tripante, là, les gens, ça va leur rentrer dans la tête. Ça va planter une graine. Moi, c'est beaucoup plus comme ça que je le vois. Fait qu'on plante une petite graine. Le monde écoute un film, dit « Oh boy, oui, c'est vrai que c'est pas cool ce qui est arrivé. Je devrais peut-être faire attention à ça la prochaine fois. » Je vais donner un exemple, en fait, que je trouve le fun, qui vient pas nécessairement d'un de mes films, mais... C'est mon père, tu sais, c'est un gars travaillant, c'est un bon bonhomme là, de la classe moyenne, mais c'est une sorte d'Elvis Gratton un peu. non, mais c'est correct, je pense qu'on... Mais c'est, comme je disais, c'est un bon Jack, c'est un gars travaillant, tout ça, mais à un moment donné, il est allé voir le film Crazy, puis il me dit « Hey, Carnot, j'ai vu ce film-là, puis sérieux, ça m'a fait poser plein de questions, puis un jour, j'apprends qu'un de mes enfants est gay, je vais bien le prendre. » Mais ça, moi, je trouvais ça merveilleux d'entendre ça. Parce qu'il arrive de loin, je veux dire, je sais que son enfance n'a pas été nécessairement évidente non plus. Fait qu'il arrive de loin, puis que ça l'aille semer cette graine-là dans sa tête, je trouve ça merveilleux. Puis le film Crazy, d'ailleurs, c'est un film québécois que j'aime beaucoup. Ça n'est un bon exemple d'un film qui amène un message, mais qu'en même temps, qui est super le fun d'écouter. La musique est écœurante, la DA est écœurante, les acteurs sont écœurants. C'est un bon film que tu peux écouter juste comme ça, sans te poser de questions, mais qui t'a quand même planté une graine. Et c'est toujours ce que j'essaye de faire dans mes affaires, dans mes films, dans mes courts-métrages. Puis dans Flactaire, c'est ce qu'on essayait de faire aussi.
Oh, oui, oui.
Pas juste donner de la saucisse, qu'il y ait d'autres choses, qu'il y ait des légumes aussi.
Pendant le premier épisode, l'espèce de pastiche de zombie où les gens infectés deviennent des policiers.
Oui.
Ah, moi, oui,
c'est
oui,
ça.
Oui.
Moi, c'était ça que je voulais que tu répondes tantôt. Que j'étais comme, qu'est-ce que TQS a eu peur?
Okay.
Ça part raide.
Oh, oui, je me rappelle de ça, oui.
Ah, et tu sais, qu'est-ce qui arriverait?
On prend en position assez clairement que la police, c'est des zombies. Désolé, c'est les polices en onde, mais bon, c'est une position qu'on prenait. Ben oui, ben en fait aussi, c'est que ça, c'était une référence au film Invasion of the Body Snatcher.
Ouais.
Oui. Fait que c'est vraiment une référence. On a refait presque le film pareil, sauf que là, c'est avec des policiers au lieu d'être des sortes de zombies, tu sais. Ouais, fait que tout le monde se transforme en police.
N'importe qui pourrait être une police.
Non, c'est ça, oui, tu sais, on ne sait pas. Mais c'est le fun, ça. Il y a souvent ces petits clins d'œil-là cinéphiliques, disons. Vous aviez pris aussi, à un moment donné, le cowboy de Future World pour le mettre à la ferme.
Ouais, si... non, c'est un Terminator. Mais c'est vrai que tu enlèves la face.
Dans ma tête, c'était le cowboy de Future World, mais bon... Mais mis dans le contexte de on le met à la ferme, il est juste en train de faire les travaux.
on faisait beaucoup de références comme ça. Il y a un autre truc, c'est un personnage, ça s'appelle le sketch s'appelle le chômage. Puis c'est un gars qui tombe sur le chômage, puis lui, il est vraiment dans un bootcamp, là. C'est vraiment l'enfer, son affaire, là, pour le chômage. C'est vraiment difficile, en tout cas. Et quand il va voir un agent de chômage, les questions qu'il lui pose, c'est les mêmes que dans Blade Runner. Fait que t'es dans un désert, il y a une tortue. C'est les mêmes questions de merde, là. Nous, on trouvait ça drôle. Ben, mais il n'y a personne qui s'en est rendu compte, là.
J'avoue que vite demain, je ne la replace pas, le sketch, mais j'ai juste le goût de le voir.
Mais hier soir, assis sur le divan, écouter votre rétro vers le futur.
Rétro vers le futur.
Puis de voir, tu sais, tout Back to the Future est là. Puis là, il y a un moment où... C'est pas Gorge McFly, c'en est un autre. Puis là, tu fais, attends, là, vous avez fait une dystopie à l'intérieur d'un film bien connu. Puis c'est ça, tu sais. Je me lève, je me tourne à ma femme, je suis comme, tu te rappelles-tu de ce sketch-là? Elle est comme, ouais, un peu, pis tout. Il devient son propre demi-frère. C'est donc. Puis il devient son propre demi-frère parce qu'il a provoqué une relation sexuelle entre le cadavre de l'homme qui. Tu sais, c'est comme il y a un moment où vous avez bifurqué du scénario original.
Pas mal, ouais.
Puis vous avez suivi ça jusqu'au bout, jusqu'à temps que ça devienne une des affaires les plus corrompues que je peux imaginer. Tu sais, c'est juste comme... Ah! Changer l'acteur, puis là, toi, c'est toi qui joues le McFly.
Ouais. Merdi. Merdi, ma
foi. c'est du culture jamming. Vous avez repris ça, vous avez fait, non, on est capable d'aller dans une autre direction, puis de présenter ça à une jeunesse influençable. Ouais. Ah! Ça...
Non, oui. Puis on pourrait en nommer jusqu'à demain. Je veux dire, le retake de Roméo et Juliette avec Coke versus Pepsi.
Ouais.
Moi, j'avais adoré ce sketch-là.
C'est un bon exemple, ça.
Mais, c'est vraiment bien écrit, sans
mais,
plus.
Mais c'est ça, c'est qu'au-delà du gag évident, il y a plein de réflexions super géniales là-dessus, sur justement cette société de consommation, sur maintenant à l'intérieur des écoles, le Pepsi. Je pense que ça a dû sortir à l'époque où il y avait eu les trucs avec les machines à Coke.
Exactement, c'est ça qu'on voulait faire, en fait, parce que dans les écoles, ils ont commencé à mettre des machines de Coke et Pepsi, puis on trouvait que ça n'avait pas de bon sens. Fait que on a fait Roméo et Juliette, mais avec le Coke et Pepsi, puis ils sont tous gros. Les jeunes sont tous gros, mais ils parlent tout en vert, là, vraiment comme dans Roméo et Juliette de Shakespeare, c'est vraiment tout en vert, mais avec des mots de boissons gazeuses et tout ça, c'était assez débile.
Les Pepsi-gu et les
Coca-Pulets.
Les Coca-Pulets.
Puis ce qui est drôle, c'est qu'à la fin... Bon, pour ceux qui n'ont jamais lu Roméo et Juliette, je vous l'apprends.
Ouais.
Roméo et Juliette meurent à la fin.
Ouais.
Ils s'empoisonnent. Et d'où, dans le sketch, ce qui fait qu'ils s'empoisonnent, c'est qu'ils boivent de l'eau.
Ben oui.
Fait que c'est super amusant, puis on se bidonne. Mais c'est vrai que tu l'écoutes objectivement, tu fais « Wow! » Tu sais, ça poussait loin, là.
Ouais.
Puis ça poussait loin. Ça, c'est une question qui est quand même assez personnelle par rapport à tout ça. C'est que on a mentionné qu'on fait le 7e handicap ensemble, puis des fois, et même souvent, on a l'attraction vers l'expérimental. Tu sais, de vouloir pousser, puis vouloir, quitte à perdre de la compréhension, juste d'aller tellement loin à un certain point. On fait des épisodes où est-ce qu'on n'avait plus la même identité. On a fait des épisodes où on a fait semblant qu'on faisait de la radio dans les années 20. Tu sais. Il y a un sacrifice de reconnaissance. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez frappé ou est-ce que c'est quelque chose que vous ignorez, mais que vous avez juste fait comme... C'est correct. On peut se rendre loin. Est-ce qu'on fait confiance à notre public de même? Parce qu'il y a des trucs qui sont tellement poussés dans votre corpus.
On faisait pas nécessairement confiance au public en général, évidemment, là, parce qu'on savait qu'il y avait des références qui n'étaient pas évidentes. On savait qu'on allait dans des directions qui étaient weird. On faisait confiance à certaines personnes. On dit, il y a du monde qui vont comprendre, qui vont trouver ça drôle. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on était notre premier public. Nous, on se faisait plaisir à nous-mêmes. On s'est dit, si nous, on trouve ça drôle... Mais en même temps, je sais qu'il y a des gars qu'on était les seuls à trouver drôles, là, mais tu sais, si on se trouve drôle, si on a envie de le faire, déjà, je trouve que c'est un bon départ. Quand j'écoute un de mes films ou un de mes courts-métrages, puis j'écoute mon montage, j'arrive à la fin, puis je suis un peu ému ou je ris, ben, je trouve que ça part bien. Tu sais, quand tu trouves même pas ça bon, ce que tu fais, bon sang, qui va trouver ça bon? Mais en même temps, des fois, on s'est trompé. Je veux dire, il y a des affaires que les gens n'ont pas compris. Puis même nos fans invétérés, ils ne comprenaient pas le gag. Comme je disais tantôt, quand je parlais de Blade Runner, il n'y a personne qui l'a vu, l'allusion. Puis, mais bon, c'est pas grave. On expérimente, on essaye. Oui. Puis...
C'est ça, mais... C'est...
Mais vous n'êtes pas auto-censuré jamais. Non, non, vous n'avez jamais dit à un moment donné, ça c'est trop...
Ben, c'est arrivé, il y a un moment qu'il y a eu un gag. Là, on avait un personnage qui s'appelait Monsieur Fromage. Puis il arrivait toutes sortes de trucs. C'était un morceau de fromage dans le frigo.
Oui, puis je veux qu'on en parle de ça.
Il est arrivé plein de trucs. Puis un moment donné, c'était la seule fois qu'on s'était auto-censuré. Là, c'est que, un moment donné, vu qu'on le faisait mourir de toutes sortes de façons tordues, Monsieur Fromage, il arrivait toujours « Bonjour, je suis Monsieur Fromage! » Et là, il se faisait écraser par une voiture. « Oh! » Et il y a quelqu'un dans le groupe un jour qui a dit « Hey, il pourrait être dans un train, puis s'en va vers un camp de concentration. » Et là, on a fait « Ouais, moi, je sais pas sûr si on embarque là-dedans. » Tu sais, je comprends que oui, il va mourir, on fait tout le temps mourir, mais je trouve ça, tu sais, c'était... Ouais. On est dans peut-être une direction que je trouvais moins évidente, tu sais. Bon, regarde, c'est peut-être la seule fois qu'on s'est vraiment auto-censuré, parce que sinon, pour le reste...
De façon générale, vous faisiez exactement votre vision.
Ouais. Mmh. On a fait déjà des gags sur les Juifs aussi, là, c'est pas ça la question. Tu sais, je veux dire... Tu ris de tout le monde, on riait de tout le monde. Fait que rire de tout le monde, c'est les inclure.
Ouais, ouais.
C'est ça, c'est ça l'idée aussi. Mm-hmm. C'était ça, tu sais, sans aller trop loin là-dedans, mais tu sais, Charlie Hebdo, c'était un peu ça aussi, là, leur façon de faire eux aussi. Ils disaient, nous, si on t'aime, on rit de toi. Fait qu'on t'inclut dans notre société.
Ouais.
C'était ça un peu leur concept de rire des musulmans aussi, mais ils ont ri des juifs aussi, ils ont ri du pape et tout. Mais nous, on riait de tout le monde, mais il fallait quand même que ça reste d'une certaine classe, tu sais, on s'entend, je veux dire. Comme je disais, faire des trucs, des camps de concentration, là, non. Ça, non.
Mm-hmm.
Mais en même temps, rire de tout le monde, encore, pour revenir à ce qu'on disait que vous étiez de votre époque, c'est aussi la marotte de South Park.
Oui.
Et puis en même temps, le fromage, c'est pour ça que j'étais vraiment curieux d'avoir tes impressions sur le fromage, parce qu'il y a un moment où j'étais comme, mais c'est leur Kenny. ils ont un oh my god, tu sais, puis c'était ça. Le plus que le fromage arrivait, le plus que j'étais comme.
C'est vrai, j'avais jamais pensé à ça. C'est
what's
vrai.
Next? Puis c'est totalement de votre époque. Ouais. Si on pourrait dire à n'importe qui, comme il y avait un Kenny dans la culture populaire québécoise, puis c'était un fromage avec deux yeux qui est totalement naïf, qui se fait attaquer par des vieux fromages pourris à un certain point.
Oui. Ben, tu sais, on est des éponges, hein, puis je me souviens, à peu près à la même époque que nous, il y a les Chicken Swell aussi qui se sont retrouvés à Radio-Canada. Puis j'ai connu les gars, ils sont super sympathiques. Puis moi, j'ai jamais été en compétition avec eux, peu non plus. Mais il y avait des gens, des fois, qui me parlaient dans un bar. Ils disaient, il y a eux qui font ça, ça me fait chier, c'est comme vous autres.
Ouais.
Je dis, moi, je vois pas ça vraiment comme ça. Je veux dire, on a la même âge, on a vécu la même enfance, la même adolescence, c'est la même pop culture. Par le fait même, on émerge en même temps. Pour moi, ça avait du sens qu'on fasse des trucs qui se ressemblent. C'était pas du copiage. Parce que je sais très bien qu'on les a jamais copiés. Puis nos trucs sortaient à peu près en même temps. Puis,
je pense que c'était quand même deux mondes.
C'est impossible. Ouais. C'est deux mondes, c'est ça. Ben, en fait, c'est que les deux ont joué dans l'absurde. C'était peut-être ce qui était un peu nouveau à la télévision à l'époque aussi, là, de faire des trucs absurdes. Fait que...
Mais visuellement, vous aviez quand même votre signature.
Oui, c'est ça. On avait des styles différents. Ouais, ouais.
Ouais. Ben, et aussi le propos. Je veux dire, c'est rien contre les Chicken Swell, mais il n'y avait pas cette espèce de message derrière. Message, c'est peut-être un trop gros mot, là, mais comme le commentaire en filigrane qu'il y a dans tout, que tu fais « OK, je viens vraiment de voir ça. » Tu sais, il y a quelque chose. Une autre question, vous parliez, tu sais, que vous étiez vraiment toutes là. Est-ce qu'il y avait comme... Puis on a dit qu'il y en avait qui étaient plus politisés, il y en avait qui étaient plus quand même tout. Est-ce que vous avez tout développé comme une dynamique que j'appelle la dynamique A-Team? C'est que vous étiez comme, toi, t'es le gars de stop motion. Moi, je tripe vraiment à faire ça. Y a-tu quelqu'un qui était plus...
Oui, absolument, on était comme ça. Je te dirais, quand on était à la télévision communautaire, puis aussi, parce que les gens sont moins au courant un peu, mais on a commencé notre délire à la télévision communautaire. C'était vraiment une émission informative sur la bande dessinée. Mais après, on s'est fait flusher par la télévision communautaire parce qu'on était un petit peu encore là, un peu trop subversif. Ah ouais. Fait qu'ils nous ont pas remis une deuxième saison. Fait qu'on a continué à faire des sketchs nous par nous-mêmes les fins de semaine. Puis on faisait des cassettes, puis on faisait la tournée des bars au Québec, puis on vendait nos cassettes. Puis ça s'est retrouvé dans certains clubs vidéo qui étaient prêts à les prendre gratuitement, puis à les louer gratuitement. Fait que comme ça ne retrouvait pas que des problèmes de droits d'auteur, puis tout ça. Okay. Puis la régie du cinéma, c'était gratuit. D'ailleurs, il y avait la boîte noire à Montréal qui le faisait aussi, qui prenait nos trucs. Et tout ça, ça s'est rendu jusqu'à ce qu'on se retrouve à Télé-Québec. Parce qu'avant, il y a eu un petit truc avec TQS. Mais quand on était à Télé-Québec, évidemment, là, on ne peut plus faire ça un peu à la bonne franquette. Là, regarde, moi, dimanche, je dis, tu es libre. Ah ouais, ben moi, tout. Puis, tu sais, non, là, il fallait avoir une structure. Et comme on n'avait pas de techniciens avec nous, il n'y avait pas de directeur artistique, il n'y avait pas de perchiste, je veux dire, on faisait tout nous-mêmes. Fait qu'il a fallu un moment. Qu'on se fasse quand même un semblant d'équipe. Fait que moi, justement, j'avais pris la direction artistique. Okay. Un autre avait pris plus les effets visuels en post-production. Un autre s'occupait de la prise de son. Fait qu'évidemment, celui qui prenait la prise de son, c'est Gérald. Ben, quand que lui jouait, ben là, c'est moi qui prenais la prise de son. On veut dire, on se partageait comme ça, on s'entraidait, mais chacun avait quand même un petit poste un peu plus que les autres pour arriver à nos fins, parce que sinon, ça aurait été trop le free-for-all, là, ça, on ne serait pas arrivé là.
Mais vous avez tout développé. Tu sais, vous étiez votre propre école. Vous avez tout développé des expertises.
Oui.
Qu'est-ce que je comprends, vous œuvrez tous maintenant dans vos domaines connexes, ou tous plus ou moins, là. Mais ça, c'est extraordinaire, tu sais, d'avoir comme développé votre propre expertise, puis d'avoir été avant, tu sais, au-delà de la courbe qui s'en venait. Je suis pratiquement ému là, par rapport à ça. Là.
Ben, c'est sûr que moi, maintenant, j'ai pas mal de skills, comme on pourrait dire, parce que j'avais jamais fait de couture avant que je suis l'acteur. Puis aujourd'hui, j'ai une machine à coudre. Je répare le linge de ma fille. Fait que c'est cool. Mais tu sais, mais oui, évidemment, on voulait tellement arriver à nos fins, on voulait tellement faire Flacteur qu'on a pris des drills, on a pris tous les outils qu'il fallait, les machines à coudre et compagnie, pour pouvoir le faire, notre sketch, pour pouvoir le faire, notre série.
Au-delà d'être des artistes, vous êtes des hommes québécois modernes, d'exemple. Tu sais, c'est comme... c'est un espèce de message.
Oh, oui, c'est bon.
Tu sais, les gars, si vous passez plus que 3 jours d'affilée ensemble à boire de la bière, faites des sketchs. Tu sais, on va boire de la bière, puis on va apprendre.
C'est un peu ça, nous, en fait. On voulait comme aller plus loin que juste écouter des films, boire de la bière. On avait envie d'aller juste un peu plus loin de ça, de se dire... Parce que combien de fois on dit ça en chum en écoutant un match de hockey ou whatever? Hey, on pourrait faire telle affaire, construire un deck ou n'importe quoi. Mais on pourrait faire une vidéo avec mon iPhone. Puis on le dit, mais on le fait pas. Ben, c'est comme si Nous, on l'a fait. On est allé plus loin que ça, on l'a fait. On l'a vraiment fait.
Puis vous avez fait des trucs sur le voyage dans le temps que j'ai jamais vu dans aucun autre film, tellement que c'était, pardonnez-moi l'expression, mais mind-bending, là, cette espèce de descente des escaliers, tu retournes de 400 ans, puis là, comme, ah, ben là, je suis dans le passé, c'est le fun. Remonte les escaliers en courant, ben là, t'es remonté de 400 ans. Ça fait que t'es... Conceptuellement, j'étais juste comme, ah, c'est quoi cette histoire-là? Et je trouve que je prends ce moment-là pour dire « Faites ça, tu sais, c'est tellement cool, ça donne des tellement bons résultats. » N'est-ce pas, David?
N'est-ce pas? Autant qu'il y avait ça, mais autant qu'il y avait les sketchs, que ce soit le cascadeur qui je pense, date de Télécom 9 ou enfin des débuts. Qui est quand même revenu souvent, qui est devenu un personnage culte, un peu comme Zobo d'ailleurs, qui l'a été. D'ailleurs, notre ami Jake a même fait du speed painting de Zobo. À un moment donné, je pense dans la soirée hommage à Phylacteur qui avait eu Aspasme. Puis, je veux dire, le Karaté Québec, cette zone un peu plus juste absurde qui était vraiment drôle et qui était quand même toujours un peu justement très québécoise dans son mood. Là. Vous aviez cette force-là, je trouve, de ramener un peu, comme tu dis, le personnage un peu graton, un peu dans vos sketchs.
Ben, c'est aussi Elvis Graton, le premier film surtout. Là, c'était une grosse référence pour nous, ça que on réécoutait souvent, qu'on réutilisait dans nos trucs. On avait, en fait, même je me rends compte qu'on avait des personnages, quand on faisait des brainstorms, on avait des personnages qu'on appelait le personnage Elvis Graton. Fait qu'on savait tout le monde, OK, ça va être un genre comme ça.
Ou
le personnage, il y a des quartiers de Saint-Roch. Fait que le personnage Saint-Roch, le personnage Saint-Sauveur, on savait déjà. Comment est-ce qu'on s'en allait.
C'est comme toutes des unités dans un grand cerveau.
Exactement. T'sais, on se comptait des bons chums. Fait que on se complétait vite, rapidement. Là.
Puis vous aviez même occasionnellement des vidéoclips où vous faisiez comme un certain style musical, que ce soit New Wave ou Punk ou peu importe, où souvent tu chantais, en fait. Là, puis musicalement, je crois que c'est votre... j'ai oublié son nom, la personne qui fait le...
Éric Falsgraf.
Éric Falsgraf, c'est lui qui faisait la musique pour tous ces sketchs-là. Ça aussi, c'est quelque chose qui fonctionnait totalement. Vous auriez pu faire un album un peu, même compilation CD.
Ben oui. Mais tout ça, c'est évidemment, ça demande,
ben, c'est sûr,
demande des fonds puis du travail et tout ça. Mais oui, on avait une belle. On avait vraiment eu de la belle musique pendant toute la série. Puis Éric a travaillé très, très fort à faire de la musique originale. Puis autant, évidemment, on avait des faux vidéoclips, un peu comme Rocket Balzari pouvait en faire des fois. Mais on a fait des trucs New Wave, Punk, tout ça. C'était bien drôle. Là.
C'est très rapide. C'est une question que j'ai posée, que je pique à Décideret, qui est une émission que je joue ici le samedi matin, mais que je trouve qui est très intéressante par rapport à ça. Vous étiez comme une bonne gang. Là, toi, tu habites à Montréal.
Oui.
Vous êtes présentement séparés. Il y a encore des gens qui sont restés à Québec, si je me rappelle bien.
Oui, ben, je te dirais, mettons, il y a moi et Patrick Boivin, quand même, qui est maintenant rendu assez populaire aussi sur YouTube avec
C'était lui qui réalisait, je crois, la
plupart. C'était lui qui réalisait, c'est ça. À l'époque, il portait le nom de psychopathe. Évidemment, il s'est débarrassé de ce nom-là, mais il y a plus qu'à Patrick Boivin. Il y a Straub aussi, Jocelyn Simard, qui est à Montréal. Sinon, le reste du groupe est à Québec toujours.
OK.
Oui.
Mais la question, c'est la formulation que je pique parce que ça fonctionne avec mes obsessions, c'est que maintenant que toi, tu habites à Montréal, qu'est-ce que tu as conservé de Québec?
Ou qu'est-ce que tu as amené de Québec?
Oh oui, excuse-moi. J'ai conservé sur ma fin, là, mais y a-tu quelque chose qui vient fondamentalement de la ville de Québec que tu as conservé dans ton processus, dans ta personnalité, puis aussi dans ta vision artistique?
Je ne sais pas quoi répondre à ça. C'est sûr qu'en tout cas, je n'ai pas amené la radio poubelle avec moi. Là, ça, c'est sûr.
On l'apprécie.
Ça, c'était une des affaires qui m'énervait là-bas. Mais Québec, c'est une ville que j'adore. Là, puis, il y a quelque chose à Québec quand même. Le fait que ce soit une plus petite ville que Montréal, il y avait quelque chose que je trouvais le fun là-dedans aussi, parce que tu vas partout à pied, puis tu fais tes affaires. Puis, je trouve qu'il y a un beau petit bassin de culturel aussi à Québec, puis de créateurs. Puis j'aimais beaucoup ça. C'est juste que, bon, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de travail, nécessairement en cinéma, puis en télévision. C'est pour ça que j'ai décidé de quitter. Moi, je pense que j'ai emmené mon côté friendly là, de Québec, là, dans le sens que moi, je parle à tout le monde, puis je suis à l'arrêt d'autobus, puis je vais parler au gars à côté de moi là, qui attend le boss. Oh, ouais, je suis vraiment comme ça.
Wow.
Je parle à tout le monde. Je suis de même. Dès que quelqu'un est sympathique, c'est mon ami. Je ne l'inviterai pas nécessairement à souper, là, mais. Ça va être mon ami. Dès que quelqu'un est fin et sympathique, j'entends un char qui n'arrache dans vroom, vroom, l'hiver, va descendre avec ma pelle, va aller pelleter pour qu'il sorte de la neige, puis J'aide les vieilles à traverser la rue. Je fais ces affaires-là.
Ça, c'est quelque chose que je veux voir au moins une fois. Hey, c'est Carniard qui aide une vieille madame à traverser la rue.
Montréal ne s'en porte que mieux maintenant.
Peut-être un peu.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a quelque chose... Ben, c'est pour expliquer la question, c'est que je suis très obsédé par cette idée-là de comme Québec, pour vous autres et pour plein d'autres gens, a été un lieu d'incubation spécifique. Tu sais, c'est ça... Je ne sais pas si Finacteur, puis probablement, c'est clairement toi qui pourrais me le dire, est-ce que Finacteur aurait pu émerger d'une fonde culturelle montréalaise? Ben, on ne sait pas.
Ben, je pense que oui. Maintenant, je comparerais les colocs. Ils ont peut-être tout ce côté-là. C'était des joueurs, des musiciens de métro, dans le fond, là, qui se sont retrouvés ensemble. Pis...
C'est vrai.
Je pense que c'est toujours possible. Il faut juste que tout le monde soit prêt à mettre de l'eau dans son vin. Il faut qu'il y ait un côté communautaire, en fait. C'est drôle à dire, mais il y avait un côté un peu communautaire dans le groupe de Philacteur. Puis que même si Patrick était le réalisateur, quand on était à Télé-Québec, tout ça, mais il y avait le même salaire que nous. On s'était tous décidés qu'on avait tous le même salaire, on faisait toute la même affaire, on avait toute la même place. Et toutes les voix comptaient pour la même voix aussi dans le groupe. Là. Chaque voix comptait pour une et non pas pour deux. Puis à cause de ça, justement, tout a bien fonctionné dans le groupe. Mais c'est sûr que de travailler en équipe, ça je m'en rends compte encore, puis ça aide pour le nouveau long métrage que je suis en train de préparer.
Oui.
C'est qu'on s'encourage entre nous. T'sais, comme là, avec les autres, on écrivait le scénario, puis regarde, je suis rendu là, hey, c'est cool, ça me donne le goût de continuer. Mais quand on est tout seul, des fois, c'est difficile de s'auto-motiver et tout. Mais à travailler avec d'autres, c'est le fun. On voit le travail des autres. Il se crée même une sorte de compétition amicale qui est très saine, puis c'est parfait. Fait que Philactère avait ce côté-là. Là, sur mon long métrage, j'ai ce côté-là, puis je souhaite ça à tous les jeunes qui ont un peu de misère, mettons, qui veulent faire du film, qui ont un petit peu de misère de leur côté, se sentent seuls, regroupez-vous, faites des trucs ensemble, c'est le fun. Puis on parle entre nous aussi, ça crée une bonne dynamique, tu sais. Ça crée vraiment une belle dynamique. Puis je suis l'acteur, en fait, on a toujours une devise entre nous, c'était de nous dire, si on cogne une porte, puis individuellement, puis ça répond pas, ben gang, on part la défoncer. Puis c'est clairement ça. Là,
c'est ça notre objectif, défoncer
des portes, ben oui.
Oui, ben de là peut-être l'idée de pour justement ces jeunes-là qui sont peut-être seuls à essayer de faire des films, d'aller justement vers les mouvements Kino et autres, parce que c'est une des meilleures façons peut-être
c'est un super beau mouvement Kino, sérieux. Moi, j'ai après Philacteur, justement, je m'ennuyais un peu, fait, j'ai sauté là-dedans pieds joints, puis c'est un beau mouvement où justement tu rencontres plein de gens, tout le monde s'entraide pour faire leur Kino avec peu de budget, avec à peu près rien à part une caméra, mais en même temps, c'est tout ce qu'on a de besoin des fois aussi. Fait que c'est un beau mouvement pour quelqu'un qui débute ou qui est intrigué par le cinéma et la télévision.
Oui. Puis, en fait, post-Télé-Québec, justement, Philacteur Cola, disons, existe maintenant sur DVD. Si jamais il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui veulent découvrir Philacteur Cola, c'est sûr.
Faites-le.
Achetez le DVD ou louez-le s'il existe encore un clip vidéo près de chez vous. Mais c'est vraiment la totale, justement. Ça s'appelle la totale, mais tout est dessus. Ça vaut vraiment la peine de le découvrir. Ouais. Mais sinon, c'est ça. Tout de suite après, en fait, j'avais lu que vous étiez aussi en 2003-2004, je crois. Philacteur Cola avait été la seule émission francophone qui avait représenté le Canada dans en Espagne pour une rencontre internationale des télédiffuseurs.
Je me souviens plus exactement tous les trucs, mais je sais qu'après Philacteur, nos distributeurs, c'était la maison, c'était Spectra à l'époque.
Oui.
Et bon, eux, il y avait déjà, c'est eux qui font le festival de jazz et tout, fait qu'il y avait déjà tout un réseau de distribution et tout. Fait qu'évidemment, ils sont partis avec Philacteur Cola, ils ont réussi à le vendre en Espagne, en Italie, il y a une couple de places. D'ailleurs, Patrick Boivin s'était retrouvé en Italie pour un truc, puis tant qu'à y être, il y a des gens là-bas qui l'avaient pris en entrevue, puis il était un peu surpris, il était comme vu comme une rockstar là-bas, il était assez surpris. Fait que Philacteur avait eu une certaine popularité en Italie, en Espagne aussi, dans les Pays-Bas aussi.
Donc ça avait été quoi, doublé?
Non, ouais, c'était il y en avait qui étaient sous-titrés, il y en a qui étaient doublés. En Espagne, c'était doublé.
Puis vous avez assez de trucs qui est muet aussi.
Oui, c'est vrai.
On a beaucoup de sketchs muets en partant, ça aidait.
C'est universel, ça. C'est
là, on est en pourparlers avec Netflix présentement.
Oh,
fait qu'on
non.
Va voir.
Oui. Oh, pour Philacteur Cola.
Bien sûr.
Wow, OK.
Pas pour tourner des nouveaux, là,
ensemble. Non.
Je rentre plus dans le costume de Zobo.
C'est ça.
Ni du cascadeur, mais.
Ah, mais ça serait excellent, ça.
Ça serait
vraiment génial.
Oui. Mais c'est ça que vous avez devancé. Excuse, je vais te laisser.
Non, c'est ça. C'est vraiment juste. C'est pas rendu très loin dans le processus, mais oui, on pousse ça parce que l'idée dans tout ça, c'est vraiment pas de faire de la grosse argent, mais juste que ça vive. Moi, c'est ça que mon but. C'est juste que Philacteur joue, que les gens puissent l'écouter, puis que ça continue à vivre.
C'est ça. Que
parce que déjà beaucoup de sketchs quand même sur YouTube. On a même carrément un channel YouTube là, à partir de Patrick Boivin, tout ça, avec beaucoup, beaucoup de sketchs, mais on voudrait vraiment, avec tous les épisodes un après l'autre, ça serait le fun.
Mais c'est ça, oui, tu vois, que... ce channel YouTube-là, il est très important. Il y a plusieurs des sketchs que j'ai fait du rattrapage à travers ça.
Oui.
Puis tu le vois dans la zone commentaire, notamment Paranoland est très populaire pour ça. Oui. C'est que tu vois les gens qui l'ont écouté, tu as les tags de géolocalisation, ça fait que c'est partout à travers le monde qui ont compris ce que vous vouliez dire avec ce sketch-là en particulier. Puis c'est super beau parce que oui, tu sais, il y a comme un truc d'universalité. Le fait que vous fassiez du muet, pour moi, ça prédate la génération YouTube où on fait des sketchs pour... maintenant, on l'upload, il part à travers le monde. T'as quelqu'un à Taipei qui fait « Je comprends exactement ce que ces 8 gars-là de Québec veulent dire. » Et je le ressens 15 ans, 20 ans plus tard. Mm. C'est magnifique.
Oui, c'est justement, comme tu dis, ça fait vivre Phylactère Cola encore aujourd'hui, ce qui fait qu'il peut être découvert par toute une nouvelle génération qui, justement, fouille à travers YouTube tous les films ou les sketchs possibles à découvrir. Puis si ça se rend jusqu'à Netflix, ça va être les gens à la maison qui veulent parcourir à travers Netflix, tout ce qui peut se faire. Donc, ça devient facilement accessible pour n'importe qui à travers le monde,
C'est ça. Bon.
Mais...
vas-y.
Mais non, c'est ça. Donc, d'ici à ce que ça apparaisse sur Netflix, on va croiser les doigts.
On va croiser les doigts, c'est très, très loin d'être
fait. C'est ça. Dans tous les cas, pour les gens qui nous écoutent, qui connaissent peut-être pas Phylactère Cola et qui sont très intrigués par la découverte de cette merveilleuse série télé qu'il y avait eu dans les années début 2000 et dans les années 90, n'hésitez pas à chercher le DVD qui est, je pense, encore disponible en vente. Ouais. En général, il suffit de fouiller
sur Amazon,
un peu.
Amazon, peut-être, Archambault, évidemment.
Vous allez trouver ça quand même, je pense, pas trop difficilement. Sinon, bien sûr, allez fouiller la chaîne YouTube Phylactère Cola. Vous allez toutes pouvoir avoir au moins quelques sketchs qui vont tout de suite vous donner l'eau à la bouche, j'en suis sûr. Et n'hésitez pas à aller voir le nouveau projet de Kern York et de Eddie 69
Thierry Bouffard.
Et de Thierry Bouffard, Feuille morte, le projet de long métrage qui va être tourné dans pas grand temps. Ça vaut la peine d'aller donner des sous pour un projet comme ça qui se fait au Québec.
Mais aussi parce qu'on est une émission académique. Oui. C'est là où c'est important. J'ai quand même essayé de me retenir, de me freiner un peu dans mes élans par rapport à ça. Mais parce que Pop en Stock est filié à l'OIC, pour les gens qui écoutent l'émission, on le sait que vous êtes des étudiants, on sait que vous avez des idées. Allez écouter ça, allez voir ce que c'est capable d'engendrer dans votre mécanisme de méninge. Essayez d'observer ça. J'aimerais ça voir plus de commentaires. J'aimerais ça voir plus de travaux. J'aimerais ça voir plus d'analyses, d'essais sur Phylactère. Pop en Stock est un portail académique. On accueille n'importe quel type d'article. Mm-hmm. S'il y a quelqu'un qui écoute et que ça lui tente d'écrire un truc sur Phylactère, faites-le. J'aimerais ça. Surtout parce que vous êtes quand même, malgré que vous veniez avant, vous êtes des créatures de web. J'aimerais ça voir le web investi un peu plus de cet imaginaire-là. Je trouve que c'est un bel appel aux auditeurs. Si ça vient... titiller de quoi chez vous, proposez-le à Pop en Stock, à l'équipe éditoriale. Ça va nous faire plaisir de poster ça sur notre database avec nos fiches. Là. Vraiment. C'est la conclusion de l'émission. Petit rappel, merci énormément, Carl.
Merci à vous autres. C'est cool.
Petite parole de finale, une sagesse septentrionale.
Oui.
Non, là,
faites-vous du fun.
C'est très bien dit. David, merci énormément pour la suggestion. Jean-Michel. Chers auditeurs et Choc. Encore Carnier, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et bonne semaine à tous. On va aller écouter Ratopolis de Robopop, qui est un vidéoclip que tu as...
Ah ben oui, c'est vrai.
Réalisé par Carnier, oui.
Exactement.
au 12 septembre, rue Saint-Denis, dans le quartier des spectacles. Desjardins 360D présente OOMPH, le festival de la rentrée, en collaboration avec la microbrasserie Trois Brassards. Voyez gratuitement Grandmaster Flash, Dead O'Beat, Baba Not Good, Canaille, Soulcard et une tonne d'autres artistes d'art urbain et d'activités extérieures. Vivez l'expérience d'un festival maximal avec le bracelet exclusif OOMPH en 360. Détails et horaires sur OOMPH.ca.
HEC Montréal, ces lettres vous mèneront loin. À HEC Montréal, la MSC Maîtrise S Sciences en gestion